lieu sans heurts. Du moins, c'est ce que pense l'institution organisatrice et les Allemands. En France aussi, on se divise autour de la participation ou non des athlètes. Et puis finalement, les crédits seront accordés, non sans débat houleux, à l'Assemblée nationale. De son côté, Hitler ne s'offusque pas de cette situation, bien au contraire. Il est même persuadé d'une chose. Ces athlètes, surentraînés, dignes représentants de cette fameuse race aryenne imaginée et fantasmée, vont rafler toutes les médailles, truster tous les podiums. Ah, il est confiant, le Führer. Il n'a pourtant pas fini de déchanter. 4 août 1936. Depuis plusieurs jours déjà, le monde entier découvre l'ampleur de ce qui a été réalisé par les nazis. Enceinte immense, drapeau rouge à croix noire, bras levés et tête haute. Oh, tout y est. Les athlètes du régime sont là pour promouvoir l'idéologie nazie, grâce à des performances qui se doivent d'être irréprochables. Le sport ? Oui, le sport doit passer au second plan, tant la propagande cherchée par Goebbels et voulue par Hitler doit être de premier ordre. Pourtant, sur les pistes d'athlétisme, dans les compétitions diverses et variées, ce sont les capacités qui parlent. Avoir l'approbation du régime ne suffit pas. Hitler risque bien de le comprendre à ses dépens. Sur la piste d'athlétisme du gigantesque stade de Berlin, les sportifs s'avancent. Avec la médaille d'or du saut en longueur en ligne de mire. Le poulain du régime s'appelle Luz Long. Grand, fin, blond. Il est un athlète de haute qualité. Face à lui, l'homme qui deviendra bientôt la grande star de ces Jeux, Jesse Owens. Américain, noir, il est totalement à l'opposé de la race prônée par Hitler et les siens. La compétition qui se joue là est donc loin d'être uniquement sportive. Et pourtant, l'histoire va se décider à jouer des troubles faits. Il faut dire que Jesse Owens et Luz Long, s'ils sont aujourd'hui des concurrents, sont avant tout des amis que tout semble séparer dans la vie. Ils sont en réalité unis par quelque chose qui dépasse les clivages politiques et stéréotypes. Une admiration mutuelle et bien réelle. Il faut dire que Jesse Owens arrive en Allemagne comme une véritable star. L'année précédente, il est le premier Afro-Américain en couverture d'un magazine états-unien. Ses performances sportives dans plusieurs disciplines le propulsent au rang d'icône. Mais nul n'est prophète en son pays, nous dit l'adage. Owens n'échappe pas à cette règle. En 1936, la ségrégation bat son plein au pays de Roosevelt. D'ailleurs, Jesse ne sera pas reçu à la Maison-Blanche après les Jeux. D'ailleurs, les délégations américaines sont séparées. Une pour les Blancs, une pour les Noirs. Ils sont 18 Afro-Américains à faire le déplacement en Europe pour représenter leur nation. Et la première chose qui les frappe immédiatement, c'est la mixité permise par Hitler. C'est un comble par rapport à ce qu'ils peuvent vivre chez eux sur leur sol natal. Petit-fils d'esclave, voilà Jesse Owens propulsé au rang de star, en étant sorti de la misère. Luz Long, lui, est issu d'une famille de la petite noblesse allemande. Tout, vraiment tout les oppose. Et pourtant, leur duel sur la piste ne sera que l'anecdote d'un incroyable et inconcevable moment au cœur de l'Allemagne nazie. Un moment de sport, de fraternité. Bien loin de ce qu'ont voulu mettre en avant Adolf Hitler et son régime. Long et Owen, tout au long de l'épreuve, se tirent la bourre. Et à la fin, alors que le Führer est dans les tribunes, que toute la clique nazie est à côté de lui, c'est Jesse Owens, dans un saut remarquable, qui glane le succès et la médaille d'or. C'est à ce moment qu'entre en scène la légende. Luz Long, encore essoufflé de son effort, est estomaqué par l'ambiance qui règne, au cœur des travées du gigantesque stade au sein duquel tout se joue. En levant les yeux vers le public acquis à sa cause, et donc déçu, il est surpris de voir que la foule applaudit chaleureusement Jesse Owens. En Allemagne, ce gars a été accueilli comme une star. Cette effervescence pour le vainqueur du jour, autant que son amitié pour Owens, pousse Long à aller le féliciter directement. lorsqu'il s'avance. Les applaudissements redoublent. Jesse, lui, est pris dans la nasse de l'excitation vécue par les gagnants de médailles et de titres. Il n'aurait jamais pu rêver un tel niveau de performance. Dans sa tête, c'est l'euphorie, autant que la stupéfaction. Drôle de mélange d'émotions, pour un jeune homme tout droit sorti des profondeurs de la destinée. Owen sent Long arriver dans son dos et se retourne, instinctivement. Il découvre que l'Allemand, juste sous la tribune officielle médusée, lui ouvre les bras en grand. Le jeune Américain s'y plonge, ravi de retrouver son ami, maintenant que leur duel à distance est terminé. Mais c'est pas tout. Berlin 1936, c'est aussi l'expression la plus totale d'une massification dingue des médias. Caméras de télévision et appareils photos sont partout. Alors, en voyant les deux athlètes si proches, un des journalistes présents ose demander l'impensable. Une photo. Les deux amis, bien loin des préoccupations politiques, acceptent sans broncher, se couchent sur le sol de la piste du géant de pierre et posent, tout sourire, l'un à côté de l'autre. Cette image, immédiatement, revêt un caractère mythique. Elle est encore aujourd'hui un symbole fort de l'histoire des Jeux Olympiques, certainement même l'un des plus grands moments de l'histoire du sport. Parce que la trame de fond, la lecture entre les lignes de cette photographie dépasse de loin le sourire sincère de deux amis que tout sépare. Cet arrière-plan évoque évidemment le fait que, au-delà de ce partage et de cette fraternité, Adolf Hitler, médusé, observe ses Jeux redevenir ce qu'ils auraient dû être par essence même. Une compétition sportive apolitique. D'un point de vue sportif et comptable, les Jeux de Berlin en 1936 sont incontestablement une réussite pour les athlètes du régime, qui ramènent la bagatelle de 89 médailles, dont 33 en or, loin devant les États-Unis et leurs 56 médailles donc. L'Allemand Konrad Frey, en gymnastique, et notamment celui qui crève le plafond avec 6 médailles obtenues à lui tout seul. Une véritable performance. Mais Hitler a de quoi être gêné aux entournures. Le héros de ces Jeux s'appelle Jesse Owen. Et il n'est pas nazi, non. Non, il est américain. Quadruple champion olympique, le jeune homme de 22 ans prend une toute autre dimension lors de cette quinzaine d'août. Certains historiens ont longtemps développé la thèse d'un Hitler furibard face au triomphe de l'afro-américain. Pourtant, dans son autobiographie, Jesse Owen note que le Führer s'est levé pour le saluer en personne. Posture de façade, oui, peut-être. Les nazis se soient montrés plus discrets qu'on pourrait le penser quand il s'agissait de faire passer leur message politique. Si l'antisémitisme fut central dans la préparation des Jeux et la sélection des athlètes, durant les épreuves, cela fut plus ténu. À Berlin, certaines zones ordinairement interdites aux Juifs furent dépouillées de leurs horribles panneaux d'interdiction. La principale polémique durant la quinzaine concerna plutôt le fameux salut olympique. En effet, cette initiative, née de l'esprit de Pierre de Coubertin, consistait à symboliser encore plus le protocole des Jeux. Les délégations devaient ainsi tendre le bras, puis le replier vers la poitrine. Évidemment, cela rappelle le salut nazi. De nombreuses nations saluèrent donc ainsi la tribune officielle, parmi elles la France, en premier chef, mais aussi la Grande-Bretagne. Salut olympique ou signe d'adhésion au nazisme et à leur chef de la part des sportifs. Cela peut paraître dingue, mais à ce stade, la question ne semble pas encore totalement tranchée par les historiens. Dans l'extrême majorité des cas, les athlètes vécurent ces Jeux comme une parenthèse enchantée, dans un quotidien au sein duquel voyager était encore une exception. Si sportivement la réussite est franche pour le régime nazi, l'heure du bilan a sonné. Hitler, immédiatement, cherche à mesurer ce qui lui semble être bien plus important que les médailles d'or glanées dans telle ou telle discipline. Ce que le Führer veut connaître, c'est la portée de la propagande nazie à travers le monde. Les autres nations vont-elles enfin comprendre le pouvoir de l'idéologie nationale-socialiste ? À ce petit jeu-là, celui qui tire les ficelles normalement est toujours le même, Joseph Goebbels. Pourtant, cette fois, Hitler ne va pas écouter son ministre de la propagande et formater encore un peu plus la puissance de son idéologie. Alors que le monde est aux portes d'une nouvelle guerre mondiale, Hitler a pris place dans un fauteuil de velours cramoisi. Il est bien entouré. Karl Diemela, Goebbels aussi. Mais l'omnipotent et omniprésent ministre a le visage pour le moins fermé. Et pour cause. Ils vont tous assister d'ici quelques instants à une projection. Celle d'un documentaire dont le nom, Olympia, rappelle la Grèce antique et les influences nazies. Hitler commence à s'impatienter. Celle qui a monté le projet de A à Z est en retard. Oui. Oui, elle, c'est une femme. Elle s'appelle Leni Riefenstahl. C'est la petite protégée du Führer. Hitler est conscient d'une chose. Le pouvoir de l'image va bientôt devenir intergénérationnel. Réaliser des films sur les grands moments de son règne est le meilleur moyen de marquer l'histoire à tout jamais. Voilà que la jeune femme, accompagnée de ses techniciens, arrive enfin. Elle se confond en excuses. D'un geste, Hitler lui fait comprendre que tout est oublié. Et Goebbels grogne. Il la déteste, cette femme arriviste qui a tapé dans l'œil de son maître après la réalisation d'un premier documentaire en 1935, Le Triomphe de la Volonté. Les rideaux s'abaissent, les bobines se mettent à tourner et enfin, Hitler découvre son chef-d'œuvre. 200 minutes d'images inédites, d'éloges au régime hitlérien et à la perfection du corps humain. C'est en cela aussi que Goebbels déteste ce qu'il voit. Cette démonstration esthétique ne fait pas la part belle au nazisme, non. Elle met en valeur tout autre chose, la pureté du corps humain dans son ensemble. Le ministre ne voit donc pas en cette œuvre un outil de propagande comme cela aurait dû l'être. Il en fait la remarque à Hitler, qui ne réagit pas. Le Führer connaît l'inimitié de son homme de main pour la réalisatrice. Au-delà de ça, si le leader de l'Allemagne nazie ne pipe mot, c'est qu'il est estomaqué. Pour la première fois, il est amené à revoir des images de son triomphe. Ces Jeux olympiques, pour lui, et ce malgré les victoires parfois amères de concurrents non-ariens, sont une splendide réussite. Et ce film, comme d'autres traces qui naîtront par la suite, tendront à le prouver. Ah, le Führer est satisfait. Il félicite Leni Riefenstahl. Il quitte la chancellerie le cœur léger. Il a réussi son coup. Comment lui donner tort ? Les détracteurs du régime diront qu'Owen et ses 4 médailles d'or sont venus ternir les préceptes nazis d'une race supérieure. Oui, oui, mais lorsqu'ils repartent dans leur foyer, nombre d'athlètes et de journalistes vantent les qualités de l'organisation nazie. Grandiose, fabuleuse, incroyable sont autant de mots qu'on retrouve dans la presse de l'époque. Personne ne voit que derrière le voile, la militarisation est en marche. La propagande orchestrée par Goebbels et ses équipes porte tellement ses fruits qu'indirectement, elle permet à Hitler d'agir les mains libres. Dès la fin des JO, la politique de ségrégation des nazis se remet en place. Le Führer affirme des velléités territoriales. Les Sudètes, l'Autriche, il rêve d'un véritable empire. Noue des liens étroits avec les communistes et commence tout doucement à songer à la Pologne. C'est la marche à la guerre. Dans le même temps, la nuit de cristal fait basculer dans l'horreur toute une partie de la population du pays. Dachau et les autres camps de concentration à sa suite font déjà le plein. Le pire ne tarde pas à venir. Mais aux yeux des autres pays, Hitler fait peur. Il est puissant. Le film de Leni Riefenstahl renforce cette opinion d'un régime grandiose qu'il faut regarder avec méfiance et respect. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU, regarde avec peur la marche à la guerre de cet homme qui ne cesse de réclamer de nouveaux territoires. On lui cède encore et encore. La guerre n'éclatera qu'avec l'invasion de la Pologne, alliée de longue date de la France. Celle-là même qui, 3 ans plus tôt, envoya une délégation d'athlètes qui levèrent le bras sous la tribune officielle. Non, non, les JO de Berlin de 1936 ne furent pas qu'un événement sportif de grande ampleur. D'ailleurs, hormis Owen, ce que la mémoire collective a retenu, c'est que ces Jeux furent ceux d'Hitler. Peut-être même plus que ceux de l'Allemagne. Il faut dire que la propagande a fait son effet. La préparation savamment orchestrée des Jeux. Les rappels incessants à la Grèce antique et à la beauté hellénique, dont descendraient les Ariens. La présence de nuées de drapeaux à croix gammées. Les uniformes de l'armée et l'omniprésence d'Hitler. Rien ne fut laissé au hasard. Et le CEO dans tout ça? Bon, vous l'imaginez bien, la position de l'institution est pour le moins délicate. Il ne fait aucun doute que ses leaders de l'époque n'avaient pas d'a priori négatif sur le régime hitlérien, ce qui a conduit à l'étouffement des tentatives de boycott avant l'événement. Aujourd'hui, sur le site du Comité international olympique, on peut lire ceci. Le monde se souvient des Jeux de Berlin comme d'un échec cinglant de la volonté d'Adolf Hitler de démontrer la supériorité de la race aryenne. Le héros de ces Jeux est un Afro-Américain, l'athlète Jesse Owen, champion aux 4 médailles d'or. Incontestablement, d'un point de vue sportif, la vérité est là. Owen fut le héros de ces Jeux. Mais d'un point de vue plus politique, cette synthèse n'est-elle pas une manière de se laver les mains ? Alors même que Baillet-Latour aurait pu, voire aurait dû, intervenir plusieurs fois contre l'organisation très politisée de la part du régime nazi. Est-ce si faux de dire au fond que le CEO a sa part de responsabilité dans la manière dont la quinzaine des Jeux s'est déroulée dans la capitale du Reich ? Et bien sur cette question, je vous laisse le soin de trancher.